C'est toujours un privilège qu'on a de pouvoir se réunir autour de la parole de Dieu, autant dans les prières, des louanges, c'est super bénissant, puis autant aussi pour la parole. Ça me fait autant de bien que vous. Puis même, je pourrais dire, ça m'en fait plus de bien à moi, parce que je l'ai médité un petit peu plus, le message. Parce que quand on prépare un message, il y a des heures de travail, puis moi, ça me bénit de pouvoir être trempé, puis méditer, puis réfléchir pendant des heures de temps sur des sujets. Puis on est à l'écoute de Dieu, puis Dieu nous donne des révélations, il nous donne des inspirations pour pouvoir... Parce que il y a une partie de l'humain qui parle, veut pas, que Dieu, il nous donne des connaissances, puis on est là pour partager nos connaissances. Mais à travers les connaissances qu'on partage, il y a des révélations que l'Esprit-Saint rajoute. C'est comme un trésor qu'on rouvre, puis on trouve des choses anciennes et des choses nouvelles. Mais dans la méditation de la parole, c'est de même toute notre vie. On rouvre la Bible, on médite la parole, on revoit des choses qu'on connaît déjà, et il y a des choses nouvelles. C'est toujours un plus pour ceux qui les vivent et qui les possèdent. Parce que pour moi, les révélations de la parole, c'est un trésor. Chaque révélation, chaque affaire. Puis je remarque, pour moi, je ne sais pas si c'est la même chose, puis je pense que oui, c'est la même chose pour vous. À mesure qu'on avance dans ces séries de messages-là, ça bâtit quelque chose dans notre compréhension. Ça nous fortifie dans le Seigneur. On apprend des choses qui font que ça augmente la solidité de notre foi. Parce qu'au début, tu ne connais pas grand-chose, tu acceptes Jésus pour le pardon des péchés, mais tu ne sais pas tout ce qui va autour. Comme que j'ai dit la semaine passée, l'apôtre Paul est un instrument pour pouvoir recevoir des révélations, des choses cachées, des choses qui étaient destinées aux saints. Puis c'est une grâce qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir ce livre-là dans nos mains et le lire. Il y a beaucoup de pays que c'est défendu. C'est encore défendu aujourd'hui. Puis profitons-en pendant le temps qu'on a de méditer la parole, puis de chercher à bâtir notre foi sur un fondement solide, s'enraciner dans les révélations de la parole de Dieu. Le sujet qu'on va voir est encore comme quelles sont les nouvelles positions qu'on a en Jésus lorsqu'on est sauvé. On a vu plusieurs, puis aujourd'hui, une des diverses positions sont tout autant importantes, mais ils ont comme une facette particulière à chaque position. Il y a comme, on apprend qu'il y a des responsabilités ou on apprend qu'il y a des opportunités que ça nous a données. Parce qu'on a cette position-là, ça nous permet d'obtenir telle et telle chose. Aujourd'hui, on va voir que nous sommes, grâce au Christ, devenus membres de son Église. Il y en a qui entendent ça, ils se disent tout de suite la première question, pourtant, une église, c'est quoi l'église? C'est une bâtisse? Je suis membre d'une bâtisse. Mais on va voir dans la parole de Dieu, pour décortiquer cette idée-là, on va voir que c'est beaucoup plus qu'une bâtisse. Le mot église, il y a un sens dans la Bible. Connaissez-vous l'église du Seigneur? Si vous ne la connaissez pas, mais vous avez tout à gagner de l'apprendre où ce qu'elle est, cette église-là. Puis d'en faire partie, c'est encore meilleur. Parce que c'est beau d'entendre parler, oh, on sait que le Seigneur, il y a une église à quelque part, mais d'en faire partie, il y a de quoi de meilleur, parce que quand tu es membre de son église, c'est parce que tu es en train de te faire travailler par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui bâtit quelque chose en toi. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler, puis ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde déchu dans lequel où ce qu'on vit présentement, c'est un monde qui est détruit par le diable et détruit par les humains malveillants. Le Seigneur, lui, est en train de bâtir, il est en train de construire, il est en train de fabriquer, autant que le diable est venu pour égorger, voler et détruire, Jésus lui est venu pour bâtir quelque chose. Il est en train de construire quelque chose d'extraordinairement beau. Amen. Puis c'est quelque chose-là, mais il est destiné à boire aux sources de la vie pour l'éternité. ce quelque chose-là, c'est l'Église du Seigneur. Savez-vous qu'il y a quelque chose présentement d'extrêmement précieux pour Dieu dans ce monde? Puis Dieu est en train de travailler fort pour bâtir ce quelque chose-là que lui considère précieux. Dans Matthieu 16 et verset 18, Jésus il dit, tout de suite après que l'apôtre Paul lui a donné une révélation, il a reçu une révélation, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. Puis là, Jésus lui a répondu, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Et sur cette pierre, la révélation que tu viens de dire là, « Je bâtirai mon Église. » Wow! Là, on parle de quelque chose que Jésus lui-même est en train de bâtir. Il est en train de construire. Il a pris des ruines, ce qui était détruit par le péché, ce qui est détruit par le diable, détruit par les humains. Il prend des ruines, puis il est en train de faire de quoi? D'extraordinairement beau. Quelque chose qui va être beau et qui va de durable aussi. De quelque chose d'éternel qu'il est en train de bâtir. Puis ça va être tellement puissant qu'est-ce qu'il est en train de bâtir, que ceux qui vont être dedans... Ça nous dit que même les portes, dans le même verset, il dit, les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle, son Église. Quand tu fais partie de son Église, et tant que tu resteras dans son Église, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la mort puis la séparation éternelle, n'a pas de pouvoir sur son Église, parce que Jésus-Christ, il bâtit de quoi qui demeure éternellement. Là, on parle d'église, église ici, église là. Puis là, tout le monde, on se dit, au premier degré, on parle de bâtisse. Non, c'est pas une bâtisse que Jésus est venu bâtir. Parce que sinon, on enverra visiblement sous nos yeux un paquet d'églises, comme chaque bâtisse qu'on voit, lieu de rassemblement des chrétiens, sont appelés des églises. Parce que dans le dictionnaire français, tu regardes le mot église, puis ça a rapport aussi à une église, c'est un bâtiment. Ça, c'est correct ce côté-là, mais c'est pas juste un bâtiment. C'est plutôt un bâtiment spirituellement parlant. Parce que le mot « église », c'est formé de deux mots, ce mot-là. Puis il est utilisé 104 fois dans le Nouveau Testament. C'est formé de deux mots qui veut dire « hors de » puis « appel ». Le mot, ça veut dire, c'est du monde qui ont répondu à l'appel puis sont sortis hors de. C'est des appelés qui ont pris la décision de répondre à l'appel. Fait que c'est, on parle de personnes qui sont sorties du monde, puis qui ont répondu à l'appel de dire « Oui, Seigneur, je veux te suivre ». Fait que le mot « Église », ça s'adresse à des individus qui ont pris la décision de répondre à l'appel de Dieu, puis ils ont sorti du monde, sorti de leur vie de péché, puis là maintenant ils marchent pour le Seigneur. C'est ça l'Église du Seigneur. Des gens qui ont répondu à l'appel. Dans le dictionnaire biblique, l'Église de Jésus-Christ, qui de tout temps décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. Le titre il a été donné à tout le monde qui ont donné leur vie au Seigneur. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es l'Église. C'est ça qui est le point. C'est que tu dans un sens, on dit qu'on va à l'Église, mais on va. L'Église, la bâtisse, n'est pas un sorti d'eux. C'est plutôt le rassemblement de ceux qui sont sortis d'eux. Ça veut dire que c'est le rassemblement des membres qui sont l'Église. Voyez-vous? Le mot Église, il y a aussi le sens de assemblée. Il y a le sens de l'Église biblique qui est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Parce que l'Église, c'est pas un mot dans le sens individuel. C'est un mot comme l'Église. Comme on voit dans ce verset-là, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Le Seigneur n'a pas trois églises, n'a pas quatre, n'a pas deux, n'a pas dix. C'est une Église, puis il est mort pour elle. C'est l'ensemble de tous les croyants qu'il y a sur la planète qui sont nés de nouveau. Des gens qui sont passés par la nouvelle naissance, comme qu'on est né de nouveau, on est automatiquement greffé à l'Église. Nous sommes maintenant appelés l'Église du Seigneur Jésus-Christ en tant que groupe universel sur la planète. Mais dans l'Église universelle, parce que Jésus dit qu'il y a une Église à travers la planète, quand il va revenir, il va venir chercher son Église, ceux qui marchent avec lui, ceux qui sont sortis du monde, puis qui ont reçu Jésus, mais il vient tous les chercher. Mais l'Église universelle sur la planète est subdivisée en plusieurs groupes locaux, appelés aussi Église dans les versets du Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 16, 19, ça nous dit « Les Églises d'Asie vous saluent. » Puis Aquilas et Priscille avec l'Église qui est dans leur maison. Voyez-vous, là on parle de l'Église à travers la planète, mais on parle aussi dans la Bible que l'Église est subdivisée en groupes locaux, comme ici à Beauharnois, on est l'Église de Beauharnois. Une Église de Beauharnois, parce qu'il peut y avoir plus qu'une Église dans un village. Comme là en Asie, il y avait plusieurs Églises. Quand il dit « les églises d'Asie vous saluent », puis même dans l'Apocalypse, les sept lettres aux sept églises, c'est à sept églises d'Asie que ça nous dit dans le texte. Fait qu'il y avait au moins sept églises en Asie, mais il y en avait peut-être plus que ça, mais Dieu envoyait une lettre à chacune de ces églises-là. Fait que même des groupes locaux, des groupes locaux dans un territoire, sont appelés l'Église, parce qu'on est tous membre de l'Église universelle, mais subdivisé en petits groupes, puis on appartient quand même à l'Église locale. Parce que Dieu il a décidé, ça ne serait pas pratique d'avoir toute la même Église à la même place, une Église à Jérusalem. Là, tous les dimanches, on part de Beauharnois, puis on s'en va à Jérusalem, voilà, au rassemblement. Parce que le mot Église, ça rapporte rassemblement, ça fera loin, puis on n'aurait pas... On n'en irait pas souvent. On en manquerait une coupe. C'est pratique d'avoir des groupes locaux. Puis nous sommes l'Église à Beauharnois. Nous sommes là pour briller dans ce monde et d'annoncer la bonne nouvelle dans notre territoire. L'Église est formée de gens qui ont invoqué le Seigneur Jésus et qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Tu fais pas partie de l'Église si tu n'as pas passé par cela. Parce qu'on le comprend clairement. C'est pas le fait que tu ailles au rassemblement qui fait de toi un membre de l'Église. Parce que faut comprendre que c'est deux choses séparées. Tu peux être dans une église locale, assis là, dans l'assemblée, puis tu peux être même membre du CA pour avoir le droit de voter, parce que le gouvernement, il a fait qu'on ait des chartes pour définir notre groupement religieux, puis notre Église, elle a une charte, puis elle a un CA, tu peux même être dans le CA. Mais si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas été racheté, tu n'as pas passé par la nouvelle naissance, tu ne fais pas partie de l'Église du Seigneur. Il faut que tu l'aies vécu pour le devenir. Ce n'est pas le fait d'être présent physiquement qui va faire de toi un membre de l'Église. C'est quand tu l'es connecté spirituellement parlant. On regarde ça dans un verset, dans 1 Corinthiens 1, 2. Paul est en train d'écrire sa lettre, puis il dit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, parce que Corinthe c'est une ville, puis il y avait une Église de Dieu. » Ça, là-dedans, on voit encore un autre beau point. L'Église appartient à qui? À Dieu. C'est pas une Église qui appartient à un membre de l'Église. C'est l'Église appartient à Dieu. Dieu est propriétaire de toutes ces églises. Il est propriétaire de chacun des membres de l'Église. Il les a rachetés individuellement, un par un, pour faire partie de son Église. Puis ça nous dit dans ce verset-là, dans 1 Corinthiens 1, 2, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Il y a tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voyez-vous, quand tu fais partie de l'Église, mais plus précisément de ceux qui ont été appelés, de ceux qui ont reçu et ont été sanctifiés, j'en ai parlé la semaine passée, qu'on était devenus des saints. On a été sanctifié en allant à Jésus, on est pardonné, on reçoit l'Esprit Saint, puis on est devenu des saints. On a commencé une vie de sanctification, puis la sanctification, ça veut dire de se consacrer de plus en plus au Seigneur, de se purifier, de se consacrer, parce que être saint, c'est être sacré. Puis on est devenu sacré à cause de Jésus. Ceux qui font partie de l'Église du Seigneur, c'est ceux qui ont été sanctifiés. Si tu n'as pas passé par d'accepter Jésus comme ton sauveur, tu n'es pas un saint. Puis si tu n'es pas un saint, tu n'es pas un membre de son Église. Voyez-vous? L'Église n'a pas été créée pour être dans l'anarchie. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le mot « anarchie », c'est comme si tu vis dans une société où il n'y a pas de gouvernement, où il n'y a pas d'autorité, où il n'y a pas de règles, que tu fais tout ce que tu veux, puis tu fais ce que tu veux quand ça te tente, puis qu'il n'y a pas de règles, puis il n'y a pas d'autorité. L'Église n'a pas été créée pour être dans l'anarchie. Elle a un chef, et le chef de l'Église, c'est le Christ. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds, en parlant, Dieu le Père a mis tout sous les pieds de Jésus, il a tout mis sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Quand tu veux faire une plainte, le bureau des plaintes, c'est Dieu. L'Église appartient au Seigneur. Oui, on peut se plaindre des frères, mais ça nous dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. C'est des griefs à faire. Fallait directement au bureau-chef, puis le bureau-chef, il est en haut. Parce qu'il y a beaucoup de structures, des fois, que les gens établissent, puis que là, ils se disent avec des titres longs de même, pour se dire qu'ils sont en autorité, puis là, ils en rajoutent. Puis là, ils se pensent chef de tout le monde. Non. Le premier chef suprême, c'est Dieu. Il a donné l'autorité à qui? À son Fils Jésus-Christ, que lui, il l'a établi chef suprême de l'Église. Donc, on a un chef. On a un chef, on a un roi, on a un seigneur, c'est tout le même. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes de vie, il y a des choses qui s'attendent de ces sujets. Dans l'Église, il y a de l'autorité qui existe, une autorité et il y a des règlements. Ça, c'est le mot qui est le plus dur à dire quand on entend qu'il y a des règlements, qu'il y a des règles, qu'il y a des rois, il n'y a pas des règles, pas des rois, mais il y a des règles, puis qu'il y a des lois qui font qu'on a un compte à rendre à la fin en plus. Puis dans l'Église, là, on rentre encore, parce que là, on voit que Jésus est en train de bâtir son Église. Il y a un travail que Jésus fait présentement, puis c'est le Saint-Esprit qui agit. Dans l'Église, c'est lui qui fait l'ouvrage, il équipe des gens pour des tâches différentes dans son Église. Puis Dieu il a établi des gens dans son Église avec la responsabilité de veiller sur les autres. Dans Actes 20, 28, ça nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans ce verset-là, ça nous fait comprendre que l'Église, elle appartient au Seigneur, il l'a acquise par son propre sang, mais en attendant, parce qu'il y a de l'ouvrage à faire, Dieu a établi des gens dans différentes églises locales avec le don d'être un évêque. Le mot évêque, là, veut dire surveillant. Dieu a établi des autorités, c'est pas une autorité comme pour remplacer Jésus. L'autorité, c'est Jésus basé sur les principes de sa parole. Mais il a quand même donné des responsabilités à des gens de veiller sur les autres pour les nourrir, en prendre soin. C'est ça que là, il dit, prenez garde donc à vous-même, parce que là, Paul avait fait un rassemblement de tous les pasteurs, les anciens de chaque ville et village qu'il y avait autour. Il a fait un rassemblement, puis dans une de ses mises en garde, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant, pour paître. Ça veut dire, le surveillant, sa job, c'est pas d'écraser, dominer, puis d'un tyran. C'est un quelqu'un qui donne l'exemple, c'est quelqu'un qui prend soin, qui surveille dans le sens pour pouvoir les aider aux brebis, parce qu'ils sont pas à lui, il est pas boss des brebis, les brebis sont à Dieu. C'est Jésus qui les a acquis. Ça appartient. On a, individuellement, vous appartenez au Seigneur. Vous ne m'appartenez pas. Moi, je suis là pour vous aider à grandir puis que vous soyez de plus en plus dans le service pour le Seigneur. C'est ça qui est la tâche des surveillants. Dieu a donné des autorités à ses serveurs. On a une autorité, veut pas, il y a des autorités. Mais c'est des autorités basées sur la parole de Dieu. Il n'y a pas une autorité qui a le droit de rajouter des choses ou de retrancher des choses de ce qui est écrit. Parce que chacun des membres de l'Église sont là pour obéir au Seigneur. Puis ils veulent grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Puis ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Les autorités n'ont pas le pouvoir de modifier ce qui a été dit de ce qui a été enseigné dans la Bible, puis d'en rajouter ou de l'enlever. Ils sont là pour présenter aux gens les choses telles que c'est écrit dans la parole de Dieu. Puis on a le travail de prendre soin de chacun des membres dans leurs besoins. Puis Dieu, le travail du Saint-Esprit, parce qu'on voit que c'est Jésus qui bâtit son Église. Fait que Jésus, il est là présentement en train de bâtir. Il veut vous faire grandir, vous affirmer, que vous arriviez à être enraciné en lui, en sa parole, puis que vous grandissiez, puis vous portez du beau fruit pour lui. Il distribue des dons et des capacités à tout le monde dans l'Église. Il n'y a pas juste un one-man show. Oui, ça peut arriver dans une petite église qu'il y a un gars pour une église, puis il y en a pour un bout, il fait tout, parce qu'il est quasiment le seul qui a les capacités pour le temporairement, le temps que Dieu distribue, le Dieu a formé dans les membres d'autres personnes à s'impliquer. Dans 1 Corinthiens 12, 28, ça nous dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler. Tous les dons sont donnés par Jésus, par le Saint-Esprit, dans le but que tout le monde puisse en recevoir et travailler à l'édification de l'Église. Il n'y a pas juste un pasteur. Oui, ça arrive souvent qu'on voit qu'il y a des églises qu'il y a juste un pasteur temporairement, le temps qu'il y ait d'autres dons qui se développent. Mais c'est dans la volonté de Dieu qu'il y ait un pasteur, puis c'est la volonté de Dieu aussi qu'il y ait d'autres membres qui deviennent équipés. Il dit, des apôtres, des prophètes, des docteurs, dont des miracles, dont de guérir, dont de secourir, dont de gouverner, dont de parler d'autres langues. Mais tous les dons sont nécessaires pour la croissance de l'Église. Puis c'est le Seigneur qui décide comment est-ce que ça va évoluer dans l'Église. Le Seigneur demande à ses membres de son Église de se soumettre. Puis vous allez voir que être, comme dans d'autres sens, on dit une brebis, ça suit son berger. Le premier des bergers, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur, il savait dans son plan qu'il donnerait sa révélation aux apôtres de Jérusalem et l'apôtre Paul qui avait été envoyé pour les païens. Puis la révélation de ce qu'on avait besoin d'apprendre, ils l'ont donné, puis on l'a reçu, puis c'est par écrit. On a encore les écrits. Dans ce temps-là, mais dans Actes 16, les versets 4 à 5, ça demande, l'apôtre Paul est en train de demander aux membres de l'Église de soumettre aux apôtres et aux anciens de l'Église initiale. C'est à qui l'Église initiale? C'est à les 11 apôtres, puis il y en a un qui est parti, non remplacé, puis l'apôtre Paul qui était apôtre. Eux autres, ils ont reçu des révélations. L'apôtre Paul, comme les autres apôtres, ont reçu des révélations, puis ils nous ont donné ça par écrit, envoyé des lettres. On les a encore aujourd'hui. Leur recommandation, leur explication est là-dedans. Dans Actes 16, les versets 4 à 5, Paul, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, puis les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Voyez-vous, une chose qu'il faut jamais oublier, l'autorité, c'est Jésus. Puis les règles, ce qu'on doit respecter, qu'on doit obéir, c'est la parole de Dieu. Les écrits, les enseignements des premiers apôtres, c'est l'Église du départ, l'Église initiale. Dieu leur a donné les révélations qu'on avait besoin, puis tout le long de l'histoire de l'humanité, l'Église s'est soumise aux recommandations qui étaient données par ces apôtres-là, parce qu'ils reconnaissent que les écrits du Nouveau Testament sont l'autorité dans l'Église du Seigneur. J'ai à me soumettre à ces enseignements-là, comme vous avez à vous soumettre dans ces enseignements-là. Quand on suit ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, on est en train de suivre ce qui nous a été donné dans la Nouvelle Alliance. Puis c'était expliqué par les apôtres eux-mêmes, les premiers, les témoins oculaires. Puis on n'a pas à rajouter quoi que ce soit. Il y a d'autres versets qui nous en parlent de ne pas ajouter, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La révélation est là, on a tout là-dedans ce qu'on a besoin pour en faire notre guide. Nous devons comprendre l'importance de marcher d'une manière digne de cet appel. Quel appel? Mais l'appel de sortir de... On est sorti. Quand on a donné notre vœu au Seigneur, on était repentant. On a demandé pardon au Seigneur, mais on a dit, Seigneur, je veux plus suivre cette vie-là, moi je veux te suivre. Fait que t'es sorti. Quand tu sors, c'est pour aller à quelque part. On est sorti d'eux parce qu'on s'en va par là, vers le Seigneur, vers le ciel, vers son, où ce qu'il nous appelle. Il nous a appelés, on a répondu à l'appel, on est sorti d'eux. Mais là, une fois que tu l'as reçu, il faut comprendre de marcher d'une manière digne de l'Église, parce que l'Église, c'est les sorties de. Dans 1 Timothée 3,15, l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée, puis d'y expliquer des choses qui sont importantes, « afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. » On a à apprendre, frères et sœurs, comme Timothée a eu à apprendre, il faut apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu. On l'a parlé l'autre jour qu'on était le temple de Dieu individuellement, mais le temple de Dieu est en réalité... Chacun de nous, on est une pierre de ce temple-là, puis on est connectés ensemble pour faire un édifice spirituel qui est l'Église du Dieu vivant. Vous êtes, chacun de nous, nous sommes un membre ou une pierre de l'Église du Dieu vivant. Puis il y a une manière, ce qu'il est en train de nous dire dans ce passage-là, il y a une façon de marcher dans la vie, il faut que tu apprennes à fonctionner, à vivre d'une manière qui est digne de l'appel qu'on a reçu de faire partie de l'Église du Dieu vivant, du temple de Dieu. Puis dans ce verset-là, en même temps, il dit, il faut comprendre notre mission, puis défendre la vérité. C'est notre mission. Parce qu'il dit que l'Église du Dieu vivant, dans 1 Timothée 3,15, c'est la colonne puis l'appui de la vérité. L'Église est porteur de la vérité. Chaque pierre de l'Église est porteur de la vérité. La vérité, c'est qui? Premièrement, c'est Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, la parole de Dieu, la parole de vérité. On est là, chacun de nous, pour porter la vérité, puis tout ensemble, on est le temple, l'habitation de Dieu, puis tous ensemble, on est l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant, le rassemblement de ceux qui sont sortis de pour Dieu, pour aller vers Dieu, on appartient à Dieu. Ouais. Le Seigneur, présentement, il bâtit son Église, puis il appelle chacun à prendre sa place. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas un one-man show. Chacun est important. Vous êtes tous importants. Vous êtes tous importants, vous avez toute votre place, puis Dieu veut vous utiliser. Jésus veut vous utiliser. Le Saint-Esprit veut vous utiliser. Dites, le Saint-Esprit veut m'utiliser. Le croyez-vous? Vous faites partie, vous êtes tous importants. Dans 1 Corinthiens 7, 17, ça dit, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Vous voulez trouver votre place? Mais marchez selon la part que Dieu vous a faite. Quelle part qu'il vous a donnée? Avez-vous une grosse part? Une part, quand tu as une part dans une tarte, tu en as une pointe. Il y en a qui ont une petite pointe, une grosse pointe. Mais au lieu de la tarte, ceux qui n'aiment pas la tarte, moi j'aime bien la tarte aux pommes, puis j'aime ça d'en prendre des grosses parts. Mais il y en a qui prennent une pointe de tortillère à la place, ils n'aiment pas la tarte. Mais quelle part vous avez reçue de Jésus? Vous avez tous reçu. Marchez selon la part que Dieu vous a faite, c'est ça qui nous a été ordonné dans toutes les églises. Tu es dans l'église, tu as reçu une part. Premièrement, tu as été greffé. Une fois tu as été greffé comme membre de ceux qui sont sortis d'eux, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à livrer, tu as quelque chose à partager, tu as quelque chose pour l'édification, pour que tout le monde en reçoive quelque chose. Puis ça peut être au niveau aussi de l'évangélisation, comme dans l'Église. Faut comprendre notre appel. Faut y aller selon l'appel que tu as reçu. Quand vous avez accepté Jésus, c'est pas parce que le pasteur vous a dit, pour ceux qui veulent accepter Jésus, non, c'est bien plus profond que ça. C'est pour ceux qui ont entendu la voix du Seigneur, à travers peut-être de quelqu'un, mais c'est la voix du Seigneur. On a répondu à l'appel du Seigneur qui nous a dit, viens. Puis nous autres, on dit, j'y vais, je te donne ma vie, Seigneur. Mais on répondait au Seigneur, là, c'est un appel qu'il m'a fait et qu'il vous a fait. Il faut discerner que ce n'était pas une affaire humaine, c'est Dieu qui vous a appelé parce que Dieu vous aime, puis Dieu veut prendre soin de vous, puis pour vous, pour lui, vous êtes précieux. Puis vous avez une mission. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour chacun de vous. Il les a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. C'est ça, son appel. Vous avez déjà des dons, puis depuis que vous êtes au Seigneur, vos dons ont déjà commencé à se multiplier, puis à grandir, puis vos capacités aussi. Ça fait partie du plan de Dieu, puis c'est lui qui vous fortifiera pour en avoir encore plus. Amen. Faut apprendre, faut découvrir, faut apprendre, grandir, puis s'impliquer de plus en plus, parce que l'Église n'est pas formée de personnes contestataires. La vraie Église du Seigneur, c'est pas formée de personnes contestataires, mais des serviteurs engagés, prêts à se soumettre. C'est une décision qu'on a prise de sortir. On a répondu à son appel, oui, mais on a décidé de sortir, puis on s'est engagé. Mais je me suis pas engagé pour contester tout ce que je vois, tout ce que j'entends sur les nouveaux règlements du royaume de Dieu, de l'Église du Seigneur. des règlements que Jésus a établis. Il y a un mode de vie là-dedans. Fait que je n'ai pas été sauvé pour contester, j'ai été sauvé dans le but de « Oui, Seigneur, me voici. T'as-tu besoin de moi? Envoie-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Si tu pars avec cette idée-là, il va t'en mettre des choses. Ça va tout se dérouler devant toi, puis il va te bénir dans ce sens-là. » C'est à ça qu'on est appelé à aller. Dans 1 Corinthiens 11, 16, ça nous le dit. Si quelqu'un se plaît à contester, peu importe les sujets, le point qu'il faut comprendre, c'est qu'un disciple du Seigneur, un membre de l'Église du Seigneur, il n'a pas le... Oui, ça peut arriver qu'on l'ait le désir de contester, mais c'est pas de Dieu. Il faut contester notre contestation. Il faut en arriver à chasser nos contestations. On est là pour faire « Me voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il dit « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. » Les vrais membres de l'Église de Dieu, leur désir, c'est de marcher et de vivre pour leur Seigneur. « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? » On avance dans tout ce qu'il nous montre volontairement. La Bible nous exhorte à ne pas quitter le regroupement. Parce qu'on est une église, c'est un assemblée. L'église, c'est un rassemblement. L'église, en réalité, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont sortis hors d'eux parce qu'on a répondu à l'appel. On est là. Elle nous exhorte à ce qu'on reste ensemble, qu'on s'édifie, qu'on se fortifie, mais qu'on reste connectés les uns avec les autres. Ça nous dit, elle nous exhorte la Bible à ne pas quitter le regroupement avec les autres membres de l'Église. Dans Hébreux 10, 25, ça nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ça prêche, Jésus revient bientôt, puis on voit que le jour avance. « Exhortons-nous les uns les autres à ne pas abandonner l'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Il y a des gens que c'est dans leur coutume, c'est la même affaire dans ce temps-là. Il y en a qui se disent « Ah, oh, ben moi j'ai des feuilles à râteler. Ah, oh, moi je suis fatigué. Ah, oh, moi je me suis acheté une paire de bœuf où j'y allais. Ah, oh, moi je viens de me marier. » Des raisons de ne pas y aller, il y en a à la tonne. C'est pas des raisons que Dieu a besoin, c'est des gens volontaires, le faire avec amour, puis on classe nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Si on est capable de remettre certaines affaires, remettons-les donc, à 2 heures plus tard, et consacrons du temps pour le Seigneur, pour vous rassembler dans le rassemblement. C'est important parce qu'on reçoit des bénédictions de Dieu pendant qu'on est ici. Ça nous remplit dans notre foi. Le Saint-Esprit, il est présent. Jésus bâtit son Église. Mais si je suis pas là à la réunion de l'Église, j'en manque des gros morceaux. Puis c'était peut-être important que je sois là parce qu'il y a des tentations dans la semaine que je vais vivre puis j'aurais eu besoin d'être fortifié ou peut-être d'être relevé des choses que j'ai vécues un peu avant. Dans une révélation de l'Apocalypse, il nous est montré que Jésus marche présentement au milieu de ses églises. Dans Apocalypse 2, 1, Jésus est en train de parler, puis il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Puis les 7 chandeliers d'or, c'était les 7 églises de l'Apocalypse. Parce qu'il l'explique dans un autre verset. Mais il dit, c'est celui qui marche au milieu de l'Église. Fait que quand on vient ici présentement, là, c'est pas venir voir Daniel Poulain, là. On est ici premièrement pour rencontrer celui qui est en train de marcher dans le rassemblement de ceux qui sont sortis hors d'eux. C'est qui marche au milieu de son Église? C'est Jésus lui-même. Chaque réunion de ses disciples, Jésus, 2 ou 3, réunant son nom, « Je suis au milieu de vous. » Il est là. Puis nous sommes ici pour lui. C'est lui qu'on vient rencontrer premièrement. Tous les chants qu'on va chanter, c'est pour lui. pour Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est en train de bâtir son Église, puis il est là, en action, présentement, en train d'agir en chacun de nous, par son Esprit qui est là. On est là pour cela, pour le rencontrer, lui, et recevoir une touche de sa présence. Puis le plus vous allez avoir soif de cela, plus vous allez vivre des choses extraordinaires dans les moments d'adoration, de prière, puis dans la parole de Dieu. Ça va vous faire du bien. L'Église appartient au Seigneur, puis elle s'accroît par son assistance. Parce qu'il est là que l'Église grandit. Dans Actes 9:31, ça nous dit cela. L'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là au milieu de son Église, parce que c'est Jésus qui bâtit l'Église, l'Église s'accroît, l'Église grandit, l'Église se solidifie. L'Église, il y en a d'autres qui s'ajoutent à l'Église. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui nous assiste dans le travail. Pour Jésus, il n'y a rien de plus important que son Église. Il a donné sa vie pour elle. Il n'y a rien de plus important que son Église. Puis il y a de super beaux projets pour elle. Oui, c'est tough d'être chrétien. Oui, l'Église a subi des persécutions dans ce monde. Oui, l'Église a beaucoup d'opposition. Mais c'est juste pour un temps, pour un petit peu de temps encore. Dans pas long, Jésus va revenir, puis il va changer la donne. Dans Éphésiens 5:27, un jour, ça va arriver qu'on va aller retrouver le Seigneur. On va être avec lui. Ça nous dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un jour, Jésus va faire paraître devant lui son Église. Déjà, il travaille pour pouvoir la modifier, la transformer, parce que quand elle commence, tu commences dans le Seigneur, t'es lavé, mais t'es enfant encore plein de... Mais il travaille, il veut te changer, il veut te perfectionner. Il veut t'amener à être sans tache ni ride. Il y en a qui se disent, ouais, mais moi j'en ai encore des rides, ça n'a pas rapport avec les rides physiques. On parle de rides spirituellement parlant, c'est tous les mauvais plis qu'on peut avoir parce qu'on est humain et la méchanceté, elle remonte. T'sais. C'est ça que Jésus va enlever pour qu'un jour, apparaisse devant lui, ça va être grandiose quand que devant Jésus, toute son Église va être là. Toutes des êtres individuellement rachetés par le Seigneur, appelés par le Seigneur, ils ont tous répondu au Seigneur, puis ils sont là devant lui, belles, beaux, devant le Seigneur, parce qu'ils ont été purifiés par le Seigneur, lavés par son sang, puis transformés par son assistance, parce qu'il est en train de bâtir son Église. Alléluia! Ça va être cette Église glorieuse que ça dit pour lui, c'est la gloire de Dieu d'avoir pris des gens de là, puis nous emmener pour faire partie de l'Église glorieuse. Ça va être extraordinaire. Le jour où on va le rencontrer, puis qu'on va être 100% transformé, parce que là, on est en cheminement, mais le 100% va s'accomplir quand on va quitter ce corps, puis qu'on va être transformé dans un nouveau corps. Un corps qui ne pèche plus. Une Église sans défaut et sans tâche. Puis le Seigneur appelle encore aujourd'hui au travers de l'Église. Il appelle des gens à venir boire aux sources de la vie. Parce que Dieu a choisi son Église pour aller porter ce message-là, puis en appeler d'autres. Viens, donne ta vie au Seigneur, accepte le Seigneur. Tu vas pouvoir boire au fleuve d'eau de la vie. C'est ce qui nous attend. Un jour, on s'en va là. Dans l'Apocalypse 22:16, c'est le dernier verset. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ce qu'on entend là, les révélations de l'Apocalypse et toute la Bible en réalité, c'est des messages donnés pour que tout le monde dans l'Église puisse le savoir. Savoir quoi? Jésus, c'est le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Puis là, ça nous dit dans l'autre verset, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Ça nous dit, et que celui qui entend de dehors dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. C'est un appel qu'on a à faire. Il faut que les églises le sachent. Nous avons cette mission d'aller au dehors puis d'aller dire aux gens, c'est Jésus le rejeton de David. L'étoile brillante du matin, c'est lui qui peut faire de toi, de te racheter, puis de te transformer, de pardonner tes péchés, de te faire naître de nouveau, puis te greffer à l'Église, puis qu'un jour tu puisses boire de l'eau de la vie qui est coulée par le Saint-Esprit. Déjà, tu l'es déjà abreuvé, on l'est tous déjà abreuvé par cette eau-là, mais il y en a encore un gros fleuve qui sort du trône de Dieu qu'on voit dans l'Apocalypse, qui sort du trône, puis l'arbre de vie pousse là-dedans, puis ça va, il y a une super belle image d'être abreuvé de l'Esprit Saint qui nous communique cette vie-là. Puis Dieu, il appelle les gens qui sont au dehors à les inviter, viens, que celui qui a soif vienne boire de l'eau de la vie gratuitement. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci de tes merveilleuses promesses. Merci de te révéler que nous faisons partie de ton Église, de tes rachetés, de ceux qui boivent déjà de l'eau de la vie puis qui vont en boire pour l'éternité. Seigneur, guide-nous dans ce qu'on a à faire dans ce monde pour qu'on puisse travailler à inviter les gens du dehors à venir boire à tes eaux. Déjà, ta parole est annoncée, que ton Saint-Esprit continue à travailler pour nous utiliser, mais aussi pour aller chercher les nouveaux. C'est ça qui est aussi bâtir ton Église. Ajoute de nouvelles personnes dans ton Église. Puis donne des dons, donne des capacités, que chacun comprenne quelle est la part qu'il a reçue, puis que tous travaillent à ton œuvre. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen.